Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon lundi à tous. Émission chargée aujourd'hui. Pour sa chronique constitutionnelle, Patrick Taillon se penche sur le double flou de la soirée électorale que nous allons vivre. D'abord, on ne saura peut-être pas quel parti l'a emporté. Deuxièmement, ça se double du flou des règles pour le gouvernement minoritaire. Qui a le droit de former un gouvernement minoritaire? Celui qui a le plus de voix ou celui qui a le plus de sièges? Patrick Taillon démêle tout cela. En balado, ensuite, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, répond à une question qui devrait le tarauder. Y a-t-il encore de la place pour le PQ entre Duplessis et le woke? Mais d'abord, c'est l'heure d'écouter quelques notes de rock bien pâteux, ce qui annonce notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Bonjour Rémi Nadeau.
Bonjour Antoine.
Expert en rock lourd et accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Comme ça, moi, je dois le dire aux auditeurs, là, je suis à Oshawa parce que ce soir, je vais assister à la réunion des conservateurs ici en Ontario. Et toi, tu es dans ta Camaro?
Oui, exactement, parce que je me prépare à filer vers Montréal où je serai au rassemblement des bloquistes avec Yves-François Blanchet. Et où on prévoit une soirée assez festive, je crois.
Super! Et t'es allé à l'église dimanche, Rémi?
Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas été à l'église un dimanche matin. Et c'était pour voir les débats de la commission de la relève de la CAQ, donc les jeunes caquistes qui étaient réunis.
Oui.
J'ai fait un message sur Twitter pour faire juste un clin d'œil en prenant une photo à l'intérieur parce que c'était dans une église qu'on dit désacralisé, donc il n'y a plus de messes qui sont célébrées dans cette église-là. C'est devenu un endroit que l'on peut louer justement pour tenir un événement comme il y avait en fin de semaine. Mais c'est quand même drôle parce que outre le fait qu'ils ont retiré les bancs d'église, là, ça demeure une église, tu comprends, avec tous les symboles.
Oui.
Et tout ça, j'ai tweeté une photo et des gens au Parti libéral qui essayaient un peu de tourner ça en politique en disant que on le sait bien, la CAQ, Duplessis, pas trop
oui.
loin. Puis le...
J'ai vu Isabelle Melançon dire ça. Puis il y a des gens dans l'entourage de Legault qui disaient, ben si on veut conserver le patrimoine, je pense que c'était plutôt, venez pas me parler de protection du patrimoine après ça. Là. Donc, ouais, c'est ça l'affaire. Là. C'est tout un symbole fort. Hein?
Exactement. Et parce que dimanche matin, François Legault, qui est venu s'adresser aux jeunes caquistes, a fait lui-même ce clin d'œil-là en disant « Bon, on est dimanche matin, il était dans le cœur de l'Église, si tu veux, pour pouvoir prendre la parole. » Et il a fait une charge à fond de train encore contre les partis fédéraux, sans les nommer, mais on sait évidemment le Parti libéral du Canada, surtout le NPD, en raison de leur volonté d'empiéter dans les compétences des provinces. Et M. Legault donc est allé aussi plus loin en disant c'est pas à Ottawa de décider des valeurs du Québec. Alors, se porter encore en grand défenseur des valeurs du Québec en raison, par exemple, de la loi sur la laïcité, de la loi sur la langue que le gouvernement est en train de moderniser là, avec
oui.
le projet de loi qui a été présenté.
Les consultations ont d'ailleurs commencé aujourd'hui, là, j'ai vu ça.
Ça commence mardi, en fait.
Mardi, OK.
Oui, au Parlement. Et donc, c'est ça, François Legault, est-ce que c'était nécessaire? Moi, ça m'a un peu surpris parce que, écoute, à un moment donné, je comprends là, que M. Legault aime jouer Capitaine Québec, et qu'il y a présentement, dans le cadre de l'élection fédérale, une menace d'empiètement là, très nette, là, surtout parce que les libéraux risquent de reprendre le pouvoir et Justin Trudeau s'engage à mettre de l'argent en santé, mais avec des conditions, des normes, puis tout ça. Donc, je comprends l'intervention, mais il l'a fait une fois, là, en disant que...
Mais là, ça fait trois fois, non?
Ben c'est ça. C'est qu'il l'avait fait une fois en disant que c'était dangereux et inquiétant. Après ça, il l'a refait en raison de l'attaque contre le Québec au débat anglais lorsque la modératrice a posé sa question tendancieuse. Là, il refait donc une troisième fois la veille du vote. Je trouve que c'est très appuyé.
J'ai bien hâte de voir, moi, les résultats, parce que est-ce que ces sorties-là vont avoir eu de l'effet? C'est la question qu'on va se poser après les résultats. Si, par exemple, M. O'Toole fait moins bien que M. Scheer ici sur le territoire du Québec, bien, la question va se poser. Est-ce que...
Oui, exactement.
Est-ce que les sorties de Legault ont nui ou quelque chose comme ça? On va se poser la question.
Est-ce que, comme chercher à démoniser, dans le fond, les volontés de Justin Trudeau, est-ce que ça va aussi, dans le fond, davantage aider le Bloc? Même si M. Legault, lui, a pas pointé vers le Bloc là, pour dire nécessairement là, aux Québécois aller voter pour eux, pointait davantage vers un gouvernement conservateur minoritaire. Mais on a l'impression qu'avec la sortie, avec ce qui s'est passé au débat en anglais, en fait, là, que ça donne davantage du gaz à Yves-François Blanchet. Mais est-ce que ça va vraiment nuire aux libéraux? Moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir l'impact que ça aura. Et M. Legault l'a ramené aussi dans le contexte de son année électorale à lui, parce qu'il a vraiment, il a fait un rappel, dans le fond, du succès de la CAQ en 2018, et il a dit aux jeunes caquistes, pourquoi les Québécois ont voté pour nous? Parce qu'on a fait une proposition nationaliste. Alors, il a dit, oui, on a fait la laïcité, on est en train de faire la meilleure protection de la langue française, mais il a dit, il va falloir continuer à être le parti qui se tient debout pour notre nation. Alors, je trouve qu'il a vraiment annoncer beaucoup ses couleurs. La CAQ a l'intention de jouer beaucoup sur cette carte-là, la fierté. Le thème, d'ailleurs, chez les jeunes caquistes en fin de semaine, c'était fier et la défense des valeurs du Québec.
Mm-hmm. En tout cas, j'ai bien hâte de voir, moi, le résultat, parce que je lisais en fin de semaine des textes de 2019. Puis, par exemple, Guillaume Saint-Pierre, dans notre propre journal, sa première phrase de chronique au lendemain des élections de 2019 fédérales, c'était « François Legault sort grand gagnant de l'élection fédérale ». Alors, là aussi, il y avait eu une grande intervention de Legault en 2019, mais ça s'était plutôt bien, ça avait bien tourné pour lui. On verra aujourd'hui.
Et Antoine, pour ce qui est des jeunes caquistes, je vais revenir sur eux parce que toi, c'était eux aussi, là, les éléments concernant la fierté québécoise, la nation, les valeurs, c'est ça qui les a beaucoup, beaucoup allumés. C'est là où il y a eu des débats avec des échanges là, enflammés, des interventions, je dirais enflammées. Et ça, c'est quand même un peu nouveau. Et avant, tu te rappelles peut-être, Antoine, on rigolait même un peu du fait que chez les jeunes caquistes, il n'y avait pas de débat. On arrivait au Congrès, il y avait un cahier de résolutions, tout était passé un après l'autre. Il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de gens contre.
Là, est-ce qu'il y avait des débats?
Il y en a eu un peu. Au moins, on a comme franchi une étape, mais je te dirais pas de là à ce que des résolutions soient annulées là, parce que les gens s'y opposaient.
Okay.
Mais il y a eu des interventions au micro. Je vais te donner l'exemple, par exemple, on parlait de trucs qui ont branché les jeunes et qui avaient un lien avec la nation québécoise. Il y avait une proposition pour doter le Québec d'un cursus scolaire commun avec l'imposition d'œuvres littéraires québécoises pour l'ensemble des cours au primaire, au secondaire, au cégep. Et il y a quelques personnes qui sont allées au micro contre et qui ont dit, ben écoutez, nous, on est le parti qui prône plus d'autonomie pour les profs. Est-ce qu'on va vraiment leur dire quoi faire à ce point-là? D'autres aussi ont fait remarquer que c'est bien d'encourager, de connaître en fait nos œuvres littéraires québécoises.
Ben oui, j'espère.
Connaître notre passé, mais que c'était pas mauvais aussi de s'ouvrir à d'autres cultures et que ça se fait parfois dans la connaissance d'œuvres d'autres cultures. Mais au final, bon, ça a passé, la résolution a été adoptée, mais il y a eu ça. Il y a eu le fait d'insérer du contenu concernant la société québécoise et les valeurs québécoises dans les cours de francisation pour les nouveaux arrivants. Il y a eu un peu la même chose aussi, insérer des valeurs québécoises à enseigner dans le cours qui est en train d'être remodelé là, d'éthique et culture religieuse. Alors, ces éléments-là ont amené des interventions avec beaucoup de vigueur des jeunes. On voyait que ça les a branchés beaucoup.
Est-ce que la CAQ, Rémi, est en train de devenir un vrai parti avec des débats?
Ben, c'est ça. On dirait qu'on y arrive tranquillement parce que il n'y avait pas, encore là, je te le dis, c'était pas énormément de débats, mais il y en a eu un peu, et ça, c'était relativement nouveau. Et un point que moi, que j'ai vraiment remarqué,
oui.
Pour quelqu'un de, écoute, de mon âge, je ne suis pas si vieux que ça, mais de près de 50 ans, j'ai trouvé que les jeunes étaient très sensibilisés, très préoccupés sur les questions de santé mentale. Il y a eu plusieurs interventions,
ah oui.
Il y a eu des résolutions qui ont été passées aussi là-dessus. Et par exemple, un jeune de 15 ans qui est venu au micro dire « Moi, j'ai pas peur de dire que j'ai eu des crises d'anxiété, j'ai eu des problèmes. » Ça a même nécessité, dans son cas, une fois l'intervention même de policiers, puis il a voulu parler de ça. Un autre est venu au micro aussi pour dire qu'il avait besoin d'un psychologue et qu'il fallait de plus en plus, a-t-il dit, parler ouvertement de ça pour ne plus que ce soit gênant, dans le fond, d'avouer qu'on a des difficultés de santé mentale et qu'on a davantage de services. Là. C'est évidemment, tout ça était rattaché à ça. Mais j'ai vraiment senti, je vais t'en glisser un mot, parce que rarement j'ai autant vu une préoccupation à ce sujet-là dans un congrès dans des jeunes, que ce soit de n'importe quelle partie.
Oui, bon, ça c'est inquiétant. Sur une note pas inquiétante, au contraire, réjouissante, gros contrat pour Hydro-Québec à New York. Je sais que ça vient de tomber, on n'a pas eu le temps de tout regarder, là, mais c'est vraiment la batterie, il me semble, la fameuse batterie du nord-est américain de François Legault qui est en train de se mettre en place. Mais je dirais, c'est un vieux rêve québécois. Tu te souviens, Jean Charest disait, il faut que l'électricité soit au Québec, ce que le pétrole est aux Albertains. Puis, donc, il y a l'idée de la batterie. Écoute, c'est quelque chose, ce contrat-là. Là. C'est gigantesque.
Oui, ça, c'est une excellente nouvelle pour le Québec. J'ai vu 1250 mégawatts.
Oui.
Donc, que Hydro-Québec va fournir, acheminer vers l'État de New York. Et tu as raison de souligner, parce que ça a été l'objet de moqueries un peu depuis le début du mandat de la CAQ.
Oui.
Je me rappelle de Saoul Polo, par exemple. Qui tirait la pipe au ministre Jonathan Julien en disant « Mais c'est où les grandes exportations d'hydroélectricité là, qu'on nous avait annoncées? » Puis parce que M. Legault avait insisté effectivement là-dessus pas mal en campagne électorale.
C'était même son plan pour réduire les gaz à effet de serre. Lui, il disait « Ben si on exporte de l'électricité, ça va fermer des usines au gaz et peut-être même au charbon aux États-Unis. » Mais là, as-tu vu ça? C'est 85 % des approvisionnements en électricité de la région de New York. Et donc, c'est les énergies fossiles actuellement qui vont prendre le bord. Alors, effectivement, il y a comme un rêve de François Legault là, qui se matérialise.
Oui, exactement. Et la notion de fierté, elle est là. Il y a nul doute parce que c'est grâce à nous, dans le fond, qu'on va aider à améliorer le bilan environnemental de cet État. Et c'est une partie importante des Américains. Donc, ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et on aura à voir dans les prochains jours, là, je dirais, comme l'impact de tout ça puis les retombées de cette bonne nouvelle. Mais c'est un très bon coup là qu'on peut souligner collectivement.
Alors, on se reparle demain, mon cher Rémi, et on sera, je pense bien, tous les deux en studio.
Oui, mais écoute, je ne sais même pas si on saura qui va gouverner le Canada.
On le saura pas, je pense. On le saura pas. Ça. ça va être quelque chose. J'ai hâte de voir la tête des conservateurs ce soir. Là, si, en tout cas, tout le monde va être dans l'expectative. Alors, on se reparle demain.
À demain, Antoine.
Merci, Rémi.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
La traduction constitutionnelle.
La question constitutionnelle.
Mais bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. C'est lundi, l'élection, le jour du scrutin. Il y a un résultat qui est assez incertain. Est-ce qu'on va avoir un gouvernement minoritaire ou majoritaire? Encore Justin Trudeau, ce matin, refusait de prononcer le mot même de majorité, alors qu'on sait très bien qu'il souhaite avoir les deux mains sur le volant, comme Jean Charest l'a dit jadis, mais comme Mélanie Joly me l'a dit en entrevue très récemment. Donc, la raison même de cette élection-là, c'est la majorité, mais on ne sait même pas s'ils veulent l'obtenir. Et ça nous ramène, au fond, au déclenchement même de cette élection. Puis, on a eu une question d'un auditeur, Jean-Marc Amiot, à ce sujet-là. Parle-nous-en, puis après ça, on va parler de la difficulté de déterminer un gouvernement lorsqu'on arrive à un résultat très serré où il n'y a pas vraiment de parti qui obtient la majorité.
Mais notre auditeur nous demande, au fond, est-ce qu'on aurait pu éviter cette élection avec une intervention de la gouverneure générale qui aurait-elle pu dire, écoutez, on est dans une quatrième vague, danger pour l'ordre public, pour la santé publique. Le Parlement fonctionne. Monsieur le Premier ministre, vous m'avez pas fait la preuve que le Parlement n'appuie pas vos projets de loi et donc refuser la demande de dissolution. Puis ça, la question qui est posée par Monsieur Amiot, ben, elle rejoint un peu en partie une position qui avait été défendue par le NPD.
Oui.
Le chef du NPD a écrit avant l'élection, au mois d'août, début août, je crois, à la gouverneure générale, une lettre pour lui dire, pour l'inviter à refuser. Puis la question a l'air d'être tournée vers le passé, mais avec des résultats de parlement fort probablement minoritaires, ben la question qu'on se pose concernant le mois d'août, on risque de se la reposer peut-être dans quelques semaines.
Donc, intervention du GG ou non?
Oui. Est-ce que le GG peut... quel est son rôle en situation de parlement minoritaire? Est-ce qu'il peut refuser? Et on le voit, c'est le cas souvent avec le NPD, mais pas seulement, qui a une tendance à vouloir donner un rôle au gouverneur général, comme dans les autres systèmes parlementaires là, républicains. Je pense à l'Allemagne, à l'Italie, où le chef d'État est un peu l'arbitre du jeu parlementaire, puis il y a une marge de manœuvre. Mm-hmm. Moi, je suis pas trop de cette école-là, parce que je pense que la spécificité canadienne, c'est d'avoir justement un chef d'État qui n'a pas de légitimité et qui est vraiment condamné à un rôle très, très, très minimaliste. Refuser une demande de dissolution d'un premier ministre qui a la confiance, c'est violer les conventions constitutionnelles qui veulent que le rôle du GG, c'est d'obéir à son conseiller, le premier ministre, tant et aussi longtemps qu'il a la confiance de la Chambre.
C'est fou que le NPD ait fait ça, ait fait cette demande.
Ben, c'est le rêve du grand moment où il pourrait un peu accéder au pouvoir à travers peut-être une coalition. Et là, on va voir avec les résultats de l'élection plusieurs incertitudes.
Hein. Ouais.
Des incertitudes de deux ordres. D'abord, le scrutin lui-même. Le dépouillement risque d'être beaucoup plus long qu'à l'habitude. On risque de vouloir attendre les résultats du dernier fuseau horaire, celui de la Colombie-Britannique. Le vote postal aussi.
Ben oui.
Qu'est-ce qu'on va faire, là? À quelle heure, quelle minute, on va dire, les enveloppes qui rentrent, là, on ne les ouvre plus, on abandonne, on cesse d'ouvrir les enveloppes. Il risque d'y avoir quelques enveloppes qui arrivent en retard.
Mmh.
Normalement, on les prend pas, on oublie ça, mais peut-être qu'il y aura une tentation de dire, ben, comme on n'a pas fini de dépouiller non plus, parce que le dépouillement est long, donc jusqu'à quel point, comment on va gérer cette situation-là?
Ben oui.
Évidemment, on a vu, il y a une une difficulté d'avoir de recruter du personnel pour cette élection. On n'a pas, par exemple, fermé les cégeps et les universités qui auraient pu offrir un immense bassin de personnel électoral.
Oui.
Dynamique, compétent, tous ces jeunes qui auraient pu travailler. Ben non. Alors, on se retrouve dans une situation de pénurie de main-d'œuvre où là, les directeurs de scrutin locaux doivent trouver des gens disponibles et volontaires, aptes au travail, qui veulent travailler juste quelques jours, là. Et donc, on le voit, il y a certains bureaux de vote où c'est plutôt lent. Les vérifications sont longues à faire. Le personnel n'est pas nécessairement aguerri. Donc, il faut s'attendre, on l'a vu avec le vote par anticipation, à des délais dans les bureaux de vote et probablement aussi des délais dans le dépouillement.
Moi, j'ai voté par anticipation et ça a été très rapide. Il n'y avait personne.
Oui, ben alors
j'ai voté tard le soir. Oui.
Moi, j'ai une expérience en sens inverse dans mon propre bureau de vote où j'ai jamais attendu aussi longtemps. Mais ultimement, il y a des endroits où il n'y aura pas de retard, mais il y en a d'autres où il va y avoir des petits problèmes et ça va se répercuter aussi dans le dépouillement.
Ouais.
Le dépouillement va être plus complexe aussi en raison du nombre de votes postales.
Donc, ça va être long.
Il va être exactement. Deuxièmement, il va y avoir une autre incertitude. À partir du moment où on va avoir un résultat de parlement minoritaire, ben on est toujours, c'est la particularité du Canada, hein, c'est que ce qu'on a de plus précieux, la démocratie parlementaire à laquelle on est tous très attachés, ben en vérité, ça repose sur à peu près aucune règle juridique.
C'est ça.
C'est-à-dire que tout ça est régi par des usages, des conventions constitutionnelles ou, si vous préférez, des règles politiques.
Mm-hmm.
Et dans ces règles politiques, il y a beaucoup de rapports de force, finalement. Et il y a un écart entre ce qui serait peut-être le comportement idéal et le comportement qui est permis et toléré. Et donc, à ce jeu-là, demain soir ou dans les suites du scrutin, en tout cas...
Oui, parce qu'il faut le dire, on enregistre dimanche, là.
Oui, on enregistre dimanche, car...
Parce que moi, je serai à Oshawa.
Pour le rassemblement.
Avec, c'est ça, de M. O'Toole, du Parti conservateur.
Je te souhaite beaucoup de plaisir.
Oui, merci.
Et donc, dans les entourages là, de chaque chef, là, il va y avoir des situations très, très différentes.
Oui.
Par exemple, pour le premier ministre sortant, Justin Trudeau, lui, il dispose d'un rapport de force beaucoup plus grand.
Mm-hmm.
Parce que soit il reconnaît sa défaite, et il lance lui-même la transition, ce qui est le geste normalement le plus fair play, le plus loyal. Mais il peut aussi s'accrocher,
mm-hmm.
voire même s'il a perdu le nombre de sièges ou le pourcentage de votes, il peut persister puis dire « je suis premier ministre et je vais le rester, car je pense que je peux obtenir la confiance de la Chambre ». Deux exemples récents. Le Nouveau-Brunswick en 2018, la Colombie-Britannique en 2017, exactement des situations qui ressembleraient à Justin Trudeau qui est minoritaire. Dans le cas du Nouveau-Brunswick, les libéraux avaient largement emporté plus de votes, mais ils avaient moins de sièges. Et en Colombie-Britannique, les libéraux qui étaient sortants avaient un tout petit peu plus de votes, un tout petit peu plus de sièges. Et donc, dans les deux cas, ils s'accrochent au pouvoir. Et dans les semaines qui suivent, ils arrivent à leur assemblée législative.
Ils font, au fond, un discours d'ouverture.
Exactement.
À ce moment-là. Et ils essaient d'avoir l'assentiment majoritaire de la Chambre.
Et à ce moment-là, dans les deux cas, la Chambre a refusé la confiance.
Ah oui.
Et on a assisté à une alternance. Donc, c'est pas l'alternance déclarée par Bernard de Rome si la tendance se maintient. C'est l'alternance qui arrive plusieurs semaines plus tard.
C'est ça.
Parce que le premier ministre en place ne veut pas reconnaître la défaite ou qu'il s'accroche. Et on le voit, pour revenir à la question de notre auditeur, ce n'est pas dans ces cas-là le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur qui est arrivé et qui a dit « Attention, monsieur le premier ministre, vous avez perdu l'élection. »
Il n'y a pas d'affaire à faire ça. Il n'y a pas la légitimité.
Dans ces cas-là, il ne s'est pas mêlé de ça. Il a laissé la Chambre plusieurs semaines plus tard. Donc, le suspense pourrait durer très longtemps.
C'est la souveraineté parlementaire, dans le fond. Hein?
Oui, exactement. C'est l'idée que, dans nos usages, c'est la Chambre élue qui décide qui a la confiance.
Le souverain n'est pas souverain. Le souverain, c'est la Chambre.
Ben, le souverain, c'est le Sénat, la Chambre des communes, plus la reine qui sanctionne.
Okay.
Mais en vertu des conventions constitutionnelles, finalement, le Sénat ne s'oppose pas à la volonté de la Chambre.
J'espère.
Et encore moins la couronne. Donc, le suspense pourrait durer très longtemps. et c'est beaucoup le signal que va envoyer Justin Trudeau qui va donner le ton. Du côté de M. O'Toole puis du Parti conservateur, même s'il terminait premier dans le pourcentage de vote, même s'il obtenait le plus grand nombre de sièges, il y a une forme d'impuissance. Parce que, comme il n'est pas le premier ministre en place, si Justin Trudeau s'accroche, il pourra, comme le faisait à l'époque M. Harper ou Andrew Scheer, dire « J'ai gagné l'élection et on devrait me laisser la première chance ».
C'est ça, c'est intéressant. C'est la doctrine Harper qui dit « C'est celui qui a le plus de sièges qui a le droit à une première tentative ». Alors que ce que tu nous dis à propos de Trudeau, c'est s'il était minoritaire, lui, il pourrait dire « Mais non, c'est moi qui vais faire un discours d'ouverture ». Est-ce qu'on peut avoir deux discours d'ouverture à ce moment-là?
Non, il y a toujours un premier discours d'ouverture par celui...
C'est celui qui est déjà premier ministre. Okay.
Et lui peut être battu.
Okay.
Pour que les conservateurs soient battus, est-ce que pour que les conservateurs puissent battre un discours du trône libéral, bien là, il faudra voir, est-ce que ça leur prend l'appui de seulement le Bloc ou seulement le NPD, ou si pour battre les libéraux qui s'accrocheraient au pouvoir, ça leur prend l'appui et du Bloc et du NPD. C'est pas du tout le même scénario.
Oui, oui, oui.
Et c'est pour ça que du côté du Bloc québécois puis du NPD, l'enjeu, c'est qu'il faudra voir quel type de balance du pouvoir ils obtiennent.
C'est ça.
Au fond, il y a ce que j'appellerais le quasi-monopole.
Il y a deux types?
Oui, parce que la balance du pouvoir, elle n'est jamais totale. Parce que, admettons que les libéraux sont minoritaires, ben, ils peuvent toujours adopter un budget avec l'appui de l'opposition officielle.
Ouais.
Donc, on n'a jamais le monopole de la balance du pouvoir parce que le tiers parti est une option. Mais il y a aussi l'opposition officielle qui, par moment, peut dire « OK, j'appuie le gouvernement en place ». Mais il y a deux scénarios à distinguer. Il y a le scénario où, que ce soit le NPD ou le Bloc, le parti qui forme le gouvernement minoritaire peut choisir entre l'un ou l'autre.
Ouais.
C'est le scénario que Justin Trudeau a vécu dans les dernières années et qui est un scénario qui est plus porteur de stabilité parce que le gouvernement minoritaire peut changer de partenaire de danse au gré des votes. Alors que si les résultats de demain montrent qu'il y a que le Bloc ou que le NPD qui est un partenaire de danse efficace pour le gouvernement minoritaire, bien là, ça change beaucoup de choses. Les chances que les conservateurs puissent s'allier pour faire tomber les libéraux augmentent, alors que dans l'autre scénario, il faudrait l'appui conservateur, bloquiste et NPD pour sortir un Justin Trudeau qui s'accroche. Ça, je pense que c'est un scénario quand même, somme toute, assez peu probable.
Oui, oui, OK.
Et peut-être dernier ingrédient dans cela, le Bloc québécois a déjà joué un rôle très important en Chambre, a déjà formé l'opposition officielle.
93.
Mais c'était très rare qu'il a disposé d'un quasi-monopole.
Il a déjà voulu faire partie d'une coalition?
Oui. En 2008.
Oui, oui.
Et de cet épisode, on retient... que...
Des stigmates, ça a été...
Je pense que oui.
Oui, hein?
À l'intérieur
politique,
du mouvement souverainiste
politique.
Lui-même, il y a eu des souverainistes pour reprocher à Gilles Duceppe d'avoir joué dans ce film-là, mais aussi...
Je me souviens de Stephen Harper qui avait, en plein débat des chefs, cité l'historien Éric Bédard en disant « Éric Bédard, souverainiste, t'avais vraiment pas aimé ça que vous essayiez de faire une coalition. »
Oui, donc le Bloc avait été critiqué à l'interne, si je peux dire. Mais aussi, on avait vu que pour les libéraux et les néo-démocrates, toute forme d'alliance avec le Bloc, nous, on l'oublie parce qu'on voit le Bloc comme des défenseurs loyaux des intérêts du Québec, souverainistes, certes, mais qui ratissent beaucoup plus large.
Beaucoup de stigmates au Canada anglais.
Mais au Canada anglais, c'est l'incarnation. Ça se mélange avec un sentiment anti-Québec.
Stéphane Dion et Jack Layton en avaient beaucoup souffert.
Mais oui, parce qu'eux, ils avaient signé cette entente permettant de renverser les conservateurs qui étaient en place. Et simplement en prorogeant le Parlement, c'est-à-dire en le fermant pour quelques semaines, Stephen Harper avait réussi à faire une campagne un peu anti-Bloc, anti-Québec, anti-coalition, et en montrant qu'une coalition avec le Bloc était, au fond, du point de vue du reste du Canada, quelque chose de profondément toxique. Donc, les chances que les conservateurs puissent organiser une alternance en situation de parlement minoritaire, finalement, ils dépendent beaucoup du fair play de Justin Trudeau qui accepterait de lui-même de concéder une défaite. Dans les scénarios où les libéraux s'accrochent, parce que nos règles du jeu ne sont pas vraiment des règles du jeu. Ils sont finalement un jeu de rapport de force, d'usage et de pratique. Ben, j'ai l'impression que Justin Trudeau est beaucoup plus solide ses chances de s'accrocher au pouvoir sont nettement plus élevées que pour les conservateurs, à siège égal et à pourcentage de vote égal.
Terminons sur une question un peu théorique. Tu insistes toujours sur le fait que c'est du droit mou, du droit flou, toutes ces questions-là, et pourtant, c'est ce qu'on a de très précieux, comme tu l'as dit, la démocratie parlementaire. Donc, il faudrait codifier tout ça à quelque part, et où est-ce que ça pourrait être une motion de l'Assemblée nationale, un changement de la Chambre des communes, ou pour codifier tout ce droit-là?
Bien, tout repose sur le décalage immense qui veut que, juridiquement, la couronne, le gouverneur général a d'immenses pouvoirs,
ouais.
Mais sous l'effet de ces conventions, il n'en a pas, il est neutralisé.
Okay.
Donc, à partir de là, si vous voulez officiellement modifier les pouvoirs du GG, là, ça prend la grande réforme.
Ah ouais, non, on oublie
mais
ça.
Moi, je pense que ça ne doit pas nous servir d'excuse. Il y aurait moyen d'agir pour codifier le droit mou,
ouais,
dans des instruments, par exemple, les Britanniques l'ont fait, les Néo-Zélandais l'ont fait, ils appellent ça un manuel du cabinet.
C'est ça.
Donc, il y aurait moyen d'avoir un processus politique où on s'entend entre partis politiques sur c'est quoi les vraies règles du jeu,
mm-hmm,
est-ce que l'interprétation harpérienne,
ouais,
a une place là-dedans, les partis génèrent leur consensus, l'inscrivent dans un document officieux qui serait par contre public, écrit, qui participerait à la vulgarisation de ces règles-là. Et là, au moins, on aurait des règles. On aurait encore du droit mou, mais il serait un peu moins flou.
Mais aux États-Unis, on a peu de droit mou. La transition est pas mal écrite. Et pourtant, quand un acteur a voulu, comme Donald Trump, a voulu contourner, miner les contre-pouvoirs, tout ça, il a tout fait. Alors, est-ce que la codification est vraiment une réponse?
Bien, d'abord, aux États-Unis, ils n'ont pas besoin de maintenir l'apparence d'une couronne. Ils ont accepté. Quand ils ont coupé le cordon, ils l'ont coupé pour vrai.
Okay.
Ils ont assumé leur choix. Ensuite, je ne partage pas le même constat sur le fait qu'une
Trump,
présidence un peu cow-boy à la Trump a réussi à faire ce qu'elle voulait. Je pense qu'au contraire, les contre-pouvoirs que sont le fédéralisme sont apparus durant la crise de la COVID. Il y a des gouverneurs qui sont tenus debout. Mais oui, les contre-pouvoirs à l'intérieur de l'appareil fédéral, ça a été plus compliqué. Mais au final, moi, je préfère quand le droit est sanctionnable,
oui,
que notre système. Parce que le jour, ce qui est certain, c'est que le jour où on aurait un Trump à la canadienne, ça, c'est clair qu'avec nos usages, notre droit mou, on serait beaucoup moins outillés pour faire face à une telle situation.
Donc, quand les acteurs sont de mauvaise foi, c'est sûr que ça foire. Au moins, si on a un peu de droit un peu plus écrit, c'est préférable. C'est, ben, dans le fond, c'est ce qu'on peut dire.
Les défenseurs de cette absence de règles là, du système,
oui,
conventionnel vont dire que c'est parce qu'il est très, très, très fragile, ce système, que tout le monde est obligé d'en prendre soin. Mais bon, c'est un peu paradoxal.
Merci beaucoup, Patrick Taillon. Puis on va en reparler, c'est certain, parce qu'on aura peut-être les résultats un jour, plus tard cette semaine. Au revoir.
À bientôt.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple, plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Antoine Robitaille,
le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
Vous écoutez Là-haut sur la colline.
La semaine dernière, j'écrivais dans une chronique qu'entre Duplessis et les woke, les vieux partis, le Parti libéral et le Parti québécois, auraient du mal à se faire une place. Alors, ça a fait réagir le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est au bout du fil. Bonjour.
Bonjour.
Merci de m'accorder cette entrevue. On est samedi actuellement. Là, il faut bien situer les gens parce que je vais vous poser des questions sur l'élection à venir lundi. Mais d'abord, cette question-là où vous vous retrouvez entre l'arbre du duplessisme et l'écorce des woke, c'est ça. Il me semble qu'il ne reste plus de place pour les vieux partis.
Ben, à court terme, c'est sûr que la polarisation va servir à la CAQ et à Québec solidaire dans cet échange-là. D'ailleurs, je trouve que leur façon de procéder en chambre ressemble pas mal plus à celle de vieux partis que de partis qui font différemment. Nous, devant ça, le Parti québécois, on a le choix de jouer à ce concours-là de décibels, mais ça nous ressemble pas du tout, ça nous ressemble pas du tout. Ou on peut également laisser un peu le temps aller, parce que si vraiment aux prochaines élections, on donne le choix aux Québécois entre le duplessisme et le wokisme, ça laisse beaucoup d'espace pour d'autres choses, parce que c'est deux profils qui sont absolument pas attrayants. Et c'est là que le Parti québécois aura quelque chose à offrir, non seulement sur le plan de la rigueur, du sérieux, du ton beaucoup plus constructif, mais sur le plan d'un projet de société qu'on est les seuls à porter avec sérieux, avec détermination, le projet d'indépendance du Québec.
Mais un instant, arrêtons-nous un peu, Paul Saint-Pierre Plamondon, à ces deux caricatures-là, duplessisme et woke. Est-ce que vous considérez, vous, que François Legault est un duplessiste? Et si oui, pourquoi?
Dans toute caricature, il y a de l'exagération, mais il y a un fond de vérité. Sinon, ce ne serait pas une bonne caricature. Dans l'approche de la CAQ, on constate qu'il y a un excès dans la gouvernance par décret. C'est un gouvernement qui fait peu de cas de la démocratie, notamment dans sa manière de contourner les commissions parlementaires, dans sa manière d'octroyer les contrats sans appel d'offres, de s'assurer de favoriser ceux qui sont du bon bord. Il y a beaucoup de traits de personnalité dans ce gouvernement-là qui n'est pas sans faire penser à Duplessis, bien sûr.
Oui, mais là, on est en crise. Les contrats sans appel d'offres, c'est lié à la crise.
Non, absolument pas. Il n'y a aucune raison à ce stade-ci. M. Dubé l'a dit lui-même. Il faut apprendre à vivre avec le virus. Et il n'y a aucune raison à ce stade-ci là, qu'on s'oblige à octroyer les contrats sans appel d'offres. Surtout avec ce qu'on a appris. Là, je pense qu'il y a une enquête du Journal de Montréal qui parlait de somme astronomique qui octroyait des compagnies bidons. La vérificatrice générale va sûrement faire le ménage là-dedans, là, de donner leur juste. Mais il n'y a rien qui justifie ce genre de gouvernance-là. Et clairement, la CAQ a une tendance à politiser la pandémie. Et par rapport à Québec solidaire, ben oui, il y a dans Québec solidaire une part de wokisme, c'est-à-dire que c'est Québec solidaire qui a accusé le Parti québécois et plusieurs Québécois de racisme parce qu'on soutenait le principe de laïcité. Et donc, c'est quoi le wokisme? Je pense que on peut le résumer, là, c'est une forme d'intimidation pour s'assurer que certains débats n'aient pas lieu. Souvent, c'est par des accusations très sévères qui sont lancées, mais dans le but de taire le débat démocratique. C'est ce qu'on voit dans les universités. Donc, toute caricature est exagérée, mais il y a un fond de vérité. Et moi, je pense qu'il y a de la place pour d'autres choses, pour une troisième voie plus raisonnable, pragmatique, constructive. Et
mais vous êtes grosso modo d'accord avec François Legault qui traite QS de woke, puis Gabriel Nadeau-Dubois qui traite François Legault de duplessiste.
Non, nous, on n'aurait pas fait ça. Puis on ne l'a pas fait d'ailleurs. Là. On pense que ce qui se passe au Salon Bleu doit porter sur les enjeux importants. Puis notre enjeu important de la semaine, c'était le fait qu'on s'est fait insulter lors du débat en anglais de l'élection fédérale. Et que François Legault, pour autant, adhère toujours au fédéralisme et n'en faisait pas de grand cas, en tout cas pas au point de demander des excuses formelles. Nous, on a décidé de forcer le jeu puis de s'assurer que l'Assemblée nationale parlait à l'unisson. Et c'est donc pas un hasard que François Legault ait détourné le sujet et ait décidé de se lancer dans un échange exagéré avec Québec solidaire. C'est que ça permettait de ne pas parler de la situation avec les infirmières, de ne pas parler de la situation avec le Canada, de ne pas parler des sujets que le Parti québécois et le Parti libéral, disons-le, avaient préparés. Donc, il y a de la tactique politique là-dedans, mais comme je vous dis, nous, jamais, on aurait embarqué, on aurait fait ça, puis on a fait le choix de ne pas embarquer dans ce concours de décibels-là, parce qu'on pense qu'il y a de l'espace pour une voie qui est plus constructive puis plus respectueuse des institutions démocratiques.
On peut quand même dire que la coalition Québec, la coalition Avenir Québec vous a piqué le thème de l'identité et l'a piqué celui de l'économie au Parti libéral du Québec?
Ben, non, pas vraiment. En fait, quand on regarde, par exemple, sur la langue française, la CAQ n'avait pas l'intention de bonifier la loi 101 en début de mandat. Durant la course du Parti québécois, on a parlé d'urgence linguistique. Ça a été ma première motion. À force de faire de la pression, la CAQ a décidé de bouger, mais encore là, comme elle le fait souvent, c'est beaucoup plus de communication que de mesures structurantes. Donc, on est toujours dans la situation où les démographes nous disent exactement ce que le Parti québécois a dit dès le départ. On était le seul parti à dire c'est nettement insuffisant et ça ne renversera pas la tendance lourde de déclin de la langue française. Donc, je pense qu'en termes de communication, la CAQ essaie de s'approprier tout ce qui est identitaire ou structurant là, pour la nation québécoise. Dans les faits, par contre, dans leurs gestes, la vérité, c'est qu'il y a deux partis fédéralistes à Québec, et ce sont les partis libéral et la CAQ.
Mm-hmm. Et Québec solidaire, considérez-vous qu'ils sont souverainistes? Parce que tout à l'heure, vous avez dit on est le seul parti souverainiste sérieux.
Ben, Québec solidaire a des gens qui sont indépendantistes, mais ils ont aussi beaucoup de personnes qui sont fédéralistes. D'ailleurs, une bonne partie de leur électorat, si ce n'est pas la majorité, est fédéraliste. Et leur collaboration fréquente avec un parti comme le NPD, par exemple, en dit long là, sur les priorités de Québec solidaire par rapport à l'indépendance. Donc, je pense qu'on peut dire, sans exagérer, que le seul parti qui est sérieux et engagé dans la mission de faire du Québec un pays, c'est le Parti québécois.
Qu'avez-vous pensé de la phrase de Gabriel Nadeau-Dubois qui a dit « J'ai pas envie de jouer à touche pas ma compétence avec Ottawa »
Ben, c'est un autre exemple là, du fait que, parce que c'est un discours qui est identique à celui du NPD, c'est le discours de Jagmeet Singh qui dit « Moi, je m'empêcherai pas d'intervenir quand un sujet vient me chercher émotivement. Je m'en chargerai pas dans les compétences. » C'est un discours qui, normalement, là, est celui des partis centralisateurs fédéralistes. Donc, ça revient à ce que je viens de vous dire sur l'indépendance chez Québec solidaire. Il y en a qui sont indépendantistes chez Québec solidaire, j'en doute pas. Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que vraiment il y a une cohérence à ce niveau-là? J'en doute.
Est-ce que le Bloc québécois, lundi, va réussir à atteindre 40 comtés?
C'est difficile à dire. Je pense que le débat fédéral aura eu nettement un impact déterminant. Maintenant, il y a beaucoup de luttes serrées là, qui rendent ça difficile à prévoir, mais je pense qu'on peut s'attendre à une performance somme toute solide de la part du Bloc.
Croyez-vous que les bons résultats du Bloc qu'on peut prévoir, là, si on se fie au sondage, auront un effet d'entraînement sur ceux du Parti québécois?
Je pense que c'est plus le débat de jeudi et les multiples demandes de la CAQ qui se soldent par des échecs, par des refus qui sont déterminants. C'est pas tant la campagne du Bloc, là, parce que c'est pas une campagne là, somme toute orchestrée autour du thème de l'indépendance, mais c'est plutôt le fait que dans cette campagne-là, on pouvait voir très clairement non seulement le fait que les demandes du Québec ne sont pas une priorité dans une campagne fédérale, mais tout le mépris, la nouvelle norme là, à l'effet que les Québécois sont des racistes, ça s'est ressorti assez clairement. Ça, je pense que c'est vraiment un élément qui rappelle aux gens que l'indépendance du Québec est la seule solution viable à long terme si on veut que non seulement nos besoins, là, comme par exemple 6 milliards de dollars en transfert en santé manquant, ça fait une différence dans notre système, ça a des conséquences sur des vies humaines. Je ne ferai pas la liste, là, mais ce qu'on envoie en pétrole, en subvention de pétrole, toutes ces questions-là sont ressorties clairement et amènent une seule réponse logique. C'est qu'il faut devenir un pays.
Mais faire la souveraineté parce qu'on est fâché ou parce qu'on se sent rejeté, est-ce que c'est pas un mauvais ferment?
Ça prend les deux. Je pense que ça prend une prise de conscience que c'est non viable. Si on a l'impression qu'on est déjà un pays alors qu'on ne l'est pas, ben, ça crée un espèce de flottement qui rend la question peut-être pas assez importante dans l'esprit des gens. Là, je pense qu'elle le devient, elle le redevient. Et là, c'est notre rôle, nous, Parti québécois, de faire l'autre partie de l'équation, c'est-à-dire parler d'avenir et définir en quoi ce projet-là, il est attrayant. Attrayant au niveau du fait qu'on va décider pour nous-mêmes nos faits ou qu'on va favoriser le pouvoir décisionnel et financier des régions. Attrayant parce que notre culture, notre langue va pouvoir fleurir, va pouvoir être beaucoup plus prospère dans ce contexte-là, attrayant parce qu'on va prendre notre place en international. Donc, ça prend les deux. Et la deuxième partie incombe au Parti québécois, c'est-à-dire quel sera l'avenir lorsqu'on aura pris les bonnes décisions. Mm-hmm. Et c'est un avenir qui est meilleur.
Vous comptez vous présenter où, Paul-Saint-Pierre Plamondon, en 2022?
Je ne sais pas, il y a beaucoup de variables. Il faut revenir à mes engagements. Là. Mes engagements de course à la chefferie qui ont été mis en suspens par la COVID, c'était d'être un chef sur le terrain à rebâtir le camp du Bloc. Donc, à court terme, je vais être moins présent à l'Assemblée nationale. Je vais faire moins de points de presse le matin et me concentrer sur une présence dans toutes les régions du Québec pour rencontrer des candidats potentiels, rencontrer les exécutifs, rencontrer les indépendantistes, de tous les horizons.
Ça ne doit pas être facile, avec les sondages que vous avez, ça ne doit pas être facile.
Non, je dirais que la cause de l'indépendance, c'est pas si toujours là, là, est toujours très présente. Donc en fait, tout le monde accepte de me rencontrer. Je pense que les gens en général ont une bonne opinion. C'est sûr que les sondages en temps de pandémie reflètent une partie de la difficulté qu'on vit tous là. La pandémie crée une polarisation du vote, mais crée énormément d'insécurité, de difficultés pour la population. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas intéressés à entendre parler de ce qu'on veut faire, puis du projet fondamental qu'on a, qui est l'indépendance. Ils ont fait encore énormément de réceptivité.
Vous avez été candidat dans Prévost la dernière fois, en 2018. Est-ce que vous excluez de vous représenter dans Prévost?
Non, je ne l'exclus pas. Je n'exclus rien, en fait. Je pense qu'il faut que j'y aille, faut y aller par étapes. Puis, à titre de chef, ma priorité, c'est le parti, puis notre projet d'avenir. C'est là-dessus qu'il faut que je me concentre. Des circonscriptions là, pour accueillir le chef. Il y en a plusieurs qui sont viables, qui sont une possibilité, mais il faut chaque chose en son temps. Il faut que je commence par livrer la marchandise quant à mes engagements. Puis mes engagements, c'était d'être sur le terrain à rebâtir le parti, le camp du oui, c'est ce que je vais faire.
Votre tâche va-t-elle être plus exigeante maintenant qu'on apprend là, que votre président de parti, Dieudonné Ella Oyono, s'en va?
Non, non, pas du tout. En fait, Dieudonné continue avec nous.
Mais il ne sera plus président.
C'est ça. On va avoir un congrès dans le cadre duquel on va élire notre nouveau président. Donc, un processus parfaitement normal. Dieudonné, pour autant, demeure dans le giron du parti. C'est simplement que ce poste-là de présidence du parti est incompatible avec ses fonctions professionnelles. Et ça ne l'empêche pas pour autant là, de continuer à militer avec nous. Donc, on est dans la continuité ici, là.
Bien, bien, merci beaucoup, Paul Saint-Pierre Plamondon.
Merci infiniment.
Au revoir. Je rappelle que je me suis entretenu avec Paul Saint-Pierre Plamondon samedi après-midi.